de Kant, alors que l'apport de Botulle à la redécouverte du kantisme est beaucoup plus complexe. En effet, Botulle, qui s'est principalement intéressé à la morale kantienne, l'a en quelque sorte humanisé. Il apporte en effet une nuance à l'une des formulations de la loi morale de Kant, qui devient sous sa plume « agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse devenir une loi universelle, ou presque ». Et cette nuance permet d'en finir avec la célèbre critique émise par Peggy, suivant laquelle si Kant a les mains propres, c'est parce qu'il n'a pas de mains. On peut dire que Botulle, d'une certaine façon, redonne des mains à Kant. Intervention qui, hélas, a été sans lendemain. Merci.
Voilà, c'est clair et c'est notre sujet du jour, j'attends très bien. On va parler de Botulle, de Jean-Baptiste Botulle, avec les botuliens, avec ceux qui sont les animateurs, les chercheurs, les créateurs de cette recherche qui a donné, vous le savez, ça n'a pas pu vous échapper, comment appeler ça ? C'est tellement indigne, c'est tellement nauséabond, c'est tellement puant, cette agression contre notre philosophe national. Je veux parler évidemment de Bernard-Henri Lévy qui souffre de ce lynchage absolument éhonté, scandaleux, suite à cette minuscule petite erreur qu'il a prise du bon côté et qui tourne à l'émeute de cette meute de hyènes qui le harcèle, c'est épouvantable. Alors, on va pas parler de ça du tout. Aujourd'hui, on va parler de Botulle. Botulle existe-t-il ? Parce que Bernard-Henri Lévy a affirmé que Botulle n'existe pas. Là, c'est peut-être aussi un petit peu hâtif. A-t-il des preuves de l'inexistence de Botulle ? Donc, notre thème du jour, c'est « Botulle n'existe pas, je l'ai rencontré ». Je voudrais parler aussi de Frédéric Lordon. L'émission d'hier, l'entretien avec Frédéric Lordon, a soulevé des vagues d'enthousiasme parmi les auditeurs et auditrices aussi de là-bas, si j'y suis. Certaines n'ont pas manqué de faire remarquer que ce que Frédéric Lordon appelle de ses voeux, c'est-à-dire la fermeture de la bourse, eh bien, il y a eu des précédents. On nous a fait observer qu'il y avait des précédents. Bernard Maris avait déjà eu cette idée. Jacques Nikonoff avait déjà eu cette idée. Bref, il y a des précédents, ce qui nous renforce dans l'idée que l'idée de Frédéric Lordon est la bonne. Alors, vous allez avoir sur le site la-bas.org, la version longue de cet entretien que vous avez pu entendre hier et qui était monté par Coy Nguyen. Alors donc, Botulle dans un instant, Lordon sur là-bas.org, et un troisième point, vous vous souvenez de Salima, cette jeune femme de 18 ans qui a été arrêtée le 19 janvier à Clermont-Ferrand. Sa sœur, elle a une sœur jumelle, Salma, qui a échappé à l'arrestation parce qu'elle était absente ce jour-là. Elle est hospitalisée depuis, et vous vous souvenez comment Salima a passé 15 jours au centre de rétention de Lyon, et finalement elle a été expulsée à Casablanca, au Maroc, le 4 février, et ce, malgré une mobilisation formidable des gens de la région, de Clermont-Ferrand, et de ses professeurs, et des professeurs des deux jeunes filles jumelles, Salima et Salma, du réseau Éducation sans frontières, qui se sont mobilisés, et on a eu des échos dans la basse, j'y suis, en général, plus généralement sur France Inter. Et vous vous souvenez, c'est ça qui est intéressant, comment le préfet Patrick Stefanini a déclaré alors à la presse qu'il ferait en sorte que Salima puisse obtenir un visa long séjour et revenir dans les plus brefs délais. Il avait évoqué un délai de 10 jours. Alors ça a calmé le jeu. On attend depuis. C'était à la mi-janvier, fin janvier. Donc voilà, le temps passe et Salima n'est toujours pas de retour. Aussi, Pascal Pascariello l'a appelé au Maroc pour savoir où elle en est. Suite dans les idées.